else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Béatrice Balti. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Pour son troisième livre intitulé « J'ai choisi le bagne », édité chez Siloé, dont elle va nous parler, et on va en parler donc tout le reste de l'émission. Mais comme à l'accoutumée, nous commençons par quelques petites infos autour du livre. Alors, comme par exemple, ce samedi, le 16 septembre à 16h, autour de la halle qui va être inaugurée à Castanet-Tolosan, rue du Stade, vous pourrez rencontrer mon prochain invité de Page à Page, qui viendra donc jeudi prochain, 21 septembre, vous pouvez rencontrer donc Fred Sanjou pour son premier roman, Le Vagabond des Abîmes, édité chez Bénévent. Donc vous pouvez le rencontrer, comme je vous le disais, ce samedi à 16h, autour de la halle donc de Castanet, rue du Stade, vous aurez l'occasion comme ça de le rencontrer avant de l'écouter jeudi prochain. Il sera là en direct dans le studio sur Radio Occitanie. Voilà, donc ça c'était la première petite info. Ensuite, le mercredi 20 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain, à 15h, pour les enfants de 4 ans à 7 ans à la bibliothèque des Minimes, qui se situe 3 places du marché au Cochon, il y a l'heure du conte, Le Petit Roi qu'on entendait tousser, de Marie-Hélène Delval et Serge Bloch, aux éditions Bayard Poche. Alors l'entrée est libre et gratuite, je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 05 61 47 91 60, donc c'était à la bibliothèque des Minimes, et c'est à 15h mercredi prochain 20 septembre pour les 4-7 ans. Juste à noter que cette lecture, cette heure du conte, a lieu dans le cadre de la vie des Virades de l'Espoir, qui est une manifestation nationale organisée par l'association Vaincre la mucoviscidose, et la bibliothèque donc des Minimes s'associe à l'association Agir ABCD pour vous proposer ce rendez-vous donc de lecture. Ensuite, le samedi 23 septembre, de 10h30 à 12h30, au petit auditorium de la médiathèque José Cabanis à Toulouse, c'est-à-dire au troisième étage, il y a un atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. Il s'agit de rencontrer la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples, et de travailler ensemble le dire à haute voix, c'est-à-dire comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole. Et donc l'atelier se tient le deuxième samedi du mois, et l'inscription, il faut s'inscrire, donc c'est le 05 62 27 45 24, et donc c'est samedi 23 à 10, de 10h30 à 12h30, donc pour ceux que ça intéresse de travailler un peu la poésie, de la lire à haute voix, etc. Et puis je terminerai ces petites infos par le mercredi 27 septembre. Alors je sais que c'est un peu loin, je vous le rappellerai de toute façon, mais vous allez voir pourquoi je vous le dis dès maintenant. À la librairie Priva, 14 rue des Arts, à 18h, il y a une rencontre avec Michel Del Castillo, qui est, ma foi, un écrivain fort connu, et tous ses livres sont des succès à chaque fois. Et là, il nous présente son dernier roman, La religieuse de Madrigal, qui est publié aux éditions Fayard Le Seuil. Donc mercredi 27 septembre à 18h à la librairie Priva, 14 rue des Arts, Michel Del Castillo, une rencontre avec l'écrivain et son dernier roman, et voilà.
Donc page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. J'en ai fini donc pour les petites infos autour du livre pour les semaines et les jours à venir, et je vais maintenant donc me retourner vers mon invitée, donc Béatrice Balti, pour son dernier livre qui s'appelle donc « J'ai choisi le bagne » aux éditions Siloé. Et donc, qui dit troisième livre dit que vous en avez écrit deux autres avant.
Oui.
Donc, on va peut-être, on va parler, vous voulez vous présenter un petit peu, Béatrice, parler un petit peu de votre parcours.
Voilà, bon, j'avais fait des études universitaires de langue à Toulouse, puis je suis allée à Paris, et là j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études. Voilà, donc j'ai commencé à écrire, disons que ces études qui n'étaient pas directement reliées à l'écriture m'ont appris à peu près à faire des recherches. Et j'ai commencé, après plusieurs voyages en Andalousie, à écrire. J'avais tellement adoré Grenade, et donc je me suis un petit peu centrée sur les derniers moments de l'Alhambra. Et j'ai été aidée par le Centre d'études arabo-andalou de l'Albaïcine de Grenade. Et voilà, après, ça a été un long travail de recherche, de traduction. Donc, ce livre s'appelait « Zaïda, servante de l'Alhambra ».
Voilà, on va en parler. Donc, en fait, vos études d'histoire vous ont servi, vous pensez, voilà, par la suite, pour l'écriture de livres historiques.
Pour comment faire les recherches, en fait. Mm-hmm. Voilà.
La manière. Donc, vous vivez à Toulouse actuellement.
Voilà, je suis revenue à Toulouse.
Vous avez depuis, une vie de famille. Voilà, vous faites, vous trouvez le temps donc d'écrire, oui, des livres.
J'aime ça, oui.
Voilà. Et ben, pour notre plus grand plaisir, hein, c'est très bien. Et donc votre premier livre, donc il était publié en 2000.
Oui,
hein, donc aux éditions L'Harmattan. Donc c'est Zaïda, servante de l'Alhambra, hein. Et donc c'est un roman, comme vous le disiez, donc historique, avec beaucoup de recherches de faits. Et donc dans ce livre, vous racontez donc les derniers moments de la vie des habitants du palais de l'Alhambra.
Voilà.
Avant la remise des clés au roi catholique.
Exactement. Ça, le livre commence en 1482. Et donc début 92, dans la nuit du 1er au 2 janvier, il y a la remise des clés. Et ensuite, il y a encore 2 années dans mon livre où c'est parce que le roi de Grenade, on lui avait fait miroiter une seigneurie dans les montagnes des Alpujarras. Donc, mais en fait, c'était pour faire un travail de fond pour le convaincre de partir. Et donc après, le livre s'arrête après quelques mois à Fès et
au royaume Fès au Maroc.
Voilà.
Et donc, voilà.
Il devient un anonyme complet. Il devient quelqu'un de gros. Lui qui a été si puissant, c'est toujours.
Donc c'est Zaïda, servante de l'Alhambra.
Voilà.
Alors ensuite, en 2003, donc 3 ans après, vous écrivez donc Le bébé indien aux éditions L'Harmattan encore.
Oui.
Alors là, c'est tout à fait autre chose.
Oui,
c'est à la
oui.
suite d'un long séjour en réserve indienne que vous écrivez ce livre. Alors, vous êtes partie pendant au moins un mois, donc vivre avec les Indiens.
Voilà, donc j'avais connu quelques années plus tôt une famille en région parisienne qui avait adopté un petit indien mexicain, et ils m'avaient fait partager leur intérêt pour les indiens en général, qu'ils soient mexicains, péruviens ou navajo, donc du sud des États-Unis. Et à l'époque, c'était un petit peu, je ne connaissais pas ces pays, donc c'est quand j'ai fait ce même voyage que j'ai pu écrire leur histoire. Et voilà, donc
Et vous avez été chez les Navajos.
Moi, j'ai été chez les Navajos. On en a croisé d'autres, notamment les Hopis. D'autres Indiens qui sont apparentés aux Hopis, qui étaient les Indiens qui étaient depuis toujours là, alors que les Navajos sont arrivés au XVIe siècle du Canada.
Ah, d'accord.
Voilà. Mmh.
Et donc dans ce livre, en fait, c'est un peu vous raconter donc la découverte d'une civilisation donc par le biais donc de l'adoption, hein, par l'histoire de vos amis un peu.
Exactement.
Vous servez de ce support.
Voilà.
Et donc bon, j'imagine que quand on revient d'une réserve indienne, on doit être en accord avec la nature.
Absolument.
On doit avoir beaucoup de choses qui ont changé.
Il y a le chamanisme. Ils ont beau être chrétiens, il y a le chamanisme et puis l'amour de la nature. Et on a besoin d'un épi de blé. On va jamais couper le pied entier. Enfin, ça fonctionne comme ça.
Et quand vous êtes revenu, c'est pas trop dur de se réadapter à.
Après, on a des images plein la tête, mais bon, il faut bien se faire à la vie de tous les jours.
Tout à fait. Et donc, on en arrive donc à notre troisième. Mais c'est bien d'avoir fait l'expérience. Et puis bon, d'en rapporter, je pense que dans votre vie de tous les jours, ça doit quand même se...
Oui, absolument.
Voilà. Ouais. C'est l'essentiel. Donc le troisième livre, on en arrive donc là, en début d'année, hein, de cette année 2006.
Oui, mars, oui.
Voilà, aux éditions Siloé, donc vous avez changé d'éditeur. Alors là, c'est « J'ai choisi le bagne », donc
voilà.
C'est un sujet assez peu traité, on va dire, assez tabou, assez dur aussi.
Oui, c'est le bagne vu du côté d'un surveillant.
Voilà, d'un
qui
surveillant.
Qui n'a pas la vocation, en fait.
Oui, qui, voilà, il n'a pas du tout la vocation d'être surveillant, mais il choisit, on va voir un petit peu à la suite de quoi. Donc, voilà, c'est l'histoire de Guillaume, en fait, qui à la suite de... Et donc ça, ce livre, voilà, je voulais en venir là d'abord avant de raconter un peu l'histoire. C'est, donc, ce livre vous est venu après plusieurs séjours en Bretagne, et notamment à l'île de Ré, hein, bien sûr.
Parce oui, que c'est alors, Bretagne, la Bretagne plus au nord, donc, qui est la région d'origine de Guillaume Le Guen, le Finistère. Et ensuite, c'est surtout à la suite de mon séjour en Charente-Maritime, l'île de Ré, et le musée du bagne et la rencontre de deux historiens.
Voilà, qui vous ont donné envie, donné envie d'écrire sur ce sujet-là.
Exactement.
Et donc, ça vous a mené vos recherches, hein, parce que vous faites beaucoup de recherches.
Oui.
Vos recherches vous ont conduit donc jusqu'à Aix-en-Provence, où sont conservés la totalité des dossiers des Baillards,
les originaux.
Ouais, donc, vous avez été les consulter, vous avez pris
c'était
des
long
notes.
Long travail. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de photocopies.
Ah oui, oui,
voilà.
Évidemment. Donc vous prenez des notes, vous faites
exactement,
la synthèse.
Voilà.
Donc ça vous a pris combien de temps, par exemple, pour ce livre ?
Disons qu'il y a à peu près 2 ans et demi.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
Mais je compte tout, hein. Je compte l'écriture, les recherches.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Le produit fini, on va dire.
Le produit fini avant la recherche d'un éditeur ou qui prend 6 mois de plus.
Ah oui, 6 mois de plus.
Voilà.
Ouais. Mais donc j'ai choisi Le Bagne donc aux éditions Siloé donc des débuts d'année. Donc moi ce que j'aime bien c'est la citation que vous faites juste avant de commencer votre livre. Déjà ça donne le ton de ce qui nous attend dans les pages d'après, hein.
Oui.
C'est la citation de Victor Hugo qui est extraite de Châtiment, ultime vérité.
Oui.
Vous voulez la dire ou je ne reverrai pas ma terre, douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours.
Voilà, voilà. C'est quelque chose qui s'adresse aux bagnards d'abord, mais aussi à certains surveillants.
Parce qu'il y en a, dit que certains bagnards ne sont pas revenus, pour diverses raisons, ils sont morts ou ils n'ont pas voulu revenir, mais il y a des surveillants aussi qui ont choisi de rester, enfin qui ne sont pas revenus.
Et puis qui sont morts de maladies tropicales aussi.
Oui, voilà. Parce qu'il faut dire que à l'époque, le paludisme, ces maladies, c'était moins bien traité. Après on dit que maintenant.
Oui.
Donc on va définir un petit peu la trame de l'histoire et puis après on parlera plus.
D'accord.
de vos recherches au niveau de l'histoire et puis on terminera par une petite lecture de certains passages. Mais entre tout ça, on fera une petite pause musicale tout à l'heure. Donc l'histoire en gros, c'est Guillaume, hein, un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille, d'Hortense, la fille du pharmacien. Et puis après l'espoir vient la déception amoureuse parce que la belle qui est fortunée et qui fait partie de la petite bourgeoisie donc est promise à un autre destin, à un autre homme, hein, finalement.
Exactement.
Donc, par dépit, et puis parce qu'il rencontre un ami tout à fait par hasard.
Un ancien ami de la guerre de 14,
quelques
années avant, en fait.
Voilà,
hein.
Parce que c'est au début. Et donc, il rencontre un ami, et donc il est dépité de son histoire d'amour avec Hortense. Et donc, il rencontre cet ami qui lui, vient de...
Qui est surveillant,
qui est déjà surveillant,
à Saint-Laurent-du-Maroni.
Voilà, donc en Guyane, et donc il lui parle de ce travail, de l'argent.
Il lui parle que des points positifs, des beaux oiseaux, de l'argent.
Des fleurs multicolores, genre le voyage d'agrément. Et donc, du coup, Guillaume, un peu sur un coup de tête, s'engage donc dans l'administration pénitentiaire des colonies. Et il part sur la Martinière en direction de la Guyane française. Loin de sa Bretagne natale, il découvre, en outre le climat qui est difficile, la végétation qui est luxuriante, dense, et c'est la végétation tropicale. Et puis les conditions de détention de ces forçats, qui sont rejetés quand même par leur pays, qui ont perdu toute identité, toute dignité, et qui n'ont aucun espoir de retourner vers leur terre natale.
Très peu, oui.
Très peu.
Très peu, oui. Très peu revenaient parce que quelquefois, quand ils étaient libérés, il y avait une période. Une fois qu'ils étaient libérés, ils devaient encore rester en Guyane Un temps qui correspondait à la,
voilà, voilà, le système du doublage. On voilà. va en parler, voilà, parce qu'on voilà. apprend plein de choses dans votre livre. Moi, j'ai ouais. beaucoup aimé parce que déjà, c'est bien écrit. Mmh. Et puis, c'est un sujet, comme je disais au début, qui est fort peu traité, mmh. qui est très tabou. Et
oui,
puis,
oui, ça a été longtemps tabou.
Bon, c'est dur, quoi, ouais. comme sujet. Et en plus, c'est, enfin, moi, personnellement, j'ai appris plein de choses, mmh. quoi. Donc, c'est, ouais. on referme ouais. le livre. Bon, ben, on est contente de l'avoir lu. De... Ben,
merci.
Et puis, bon, ben, c'est romancé, mais enfin, quelque part, ce mmh. Guillaume, il a forcément existé. Hein.
Voilà, c'est un mélange de plusieurs c'est surveillants d'après fait, les témoignages hein, que j'ai eus.
C'est romancé sans être romancé, parce que mmh. bon, ben, mmh. Voilà, il a forcément existé, ce Guillaume, sous mmh. un autre nom peut-être,
oui.
mais il a forcément été là-bas et il a vécu. Donc on va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. Écoutez bien la chanson.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, mère d'à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge, merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle, merde à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui tant s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules tant ronges dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche, merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban.
Superbe chanson de Léo Ferré, Béatrice
oui,
Balti, choisie donc par vos soins pour cette émission,
oui.
Merde à Vauban, vous expliquez pourquoi ?
Oui, parce que la citadelle qui abritait les bagnards, une fois qu'ils étaient regroupés à La Rochelle, des diverses prisons centrales, donc de La Rochelle, ils prenaient le bateau pour l'île de Ré, et ils restaient entre un mois et un an dans cette citadelle construite par Vauban, en attendant le grand départ sur le La Martinière, le bateau bagne.
Voilà, qui partait vers la Guyane française.
Voilà, deux fois par an.
Deux fois par an.
Deux fois par an.
Et donc, justement, bah, en parlant de tout ce qu'on a, tout ce que moi personnellement j'ai appris et ce que peut-être d'autres personnes vont apprendre en lisant votre livre, c'est que déjà le bateau, donc le La Martinière,
oui.
c'est un ancien bateau de guerre allemand.
Absolument. Le premier bateau bagne qui s'appelait la Loire avait été détruit par les Allemands. Et donc, quand les Alliés ont gagné la guerre, les Français ont récupéré ce bateau. Et il y a eu une année pour l'aménager à peu près, pour faire...
Pour que ça se transforme de bateau de guerre en bateau prison.
En bateau prison, voilà.
D'accord, pour transporter tous les forçats.
Il s'appelait le Douala à l'époque. Il était construit par les Anglais. Et au temps où il était employé par les Allemands, utilisé par les Allemands, c'était le Douala.
D'accord. Et donc là, les Français l'ont rebaptisé la Martinière.
La Martinière, qui était le médecin de Louis XV.
D'accord, très bien. Donc voilà, on apprend, voilà, c'est ce que je dis, on apprend plein de choses, quoi. Et donc on apprend aussi donc qu'il faut, c'est ça surtout, moi ce que je trouve dramatique, c'est qu'il faudra attendre en fait 1953 pour que les derniers forçats de Guyane reviennent en métropole.
Absolument.
1953, donc bien après la Seconde Guerre mondiale, on parle toujours de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a quand même des dates qui sont encore très tragique aussi.
Le dernier départ, c'est 38, mais après la guerre éclate.
Voilà, donc donc c'est, en fait, c'est ça, voilà. C'est en 1933, déjà, voilà, il y a une délégation de l'Armée du Salut qui s'installe en Guyane. Pour un peu améliorer la vie des forçats, avec la devise soupe, savon et spiritualité.
Voilà,
déjà les faire mieux manger, les laver, et puis donc avec... ils aident les forçats, voilà, en fin de peine, en fait, à travailler sur place pour payer leur billet retour.
Exactement.
Sur la métropole.
Exactement.
Donc ça, c'était déjà. Et après, il y a un suivi sur place en métropole.
Voilà.
Qui leur permet de se réinsérer.
Voilà,
donc ça, c'était grâce à l'Armée du Salut en 1933 et donc suite à aux articles d'Albert Londres.
Absolument. Albert Londres qui commence sa campagne de presse dans les années 23. Et il a fait plusieurs voyages payés par l'administration française qui ne se doute pas que ça va être aussi critique. Et donc à partir de là, il va être peut-être les surveillants vont trouver que c'est trop injuste parce que certains font leur travail sans sadisme et du mieux qu'ils peuvent. Donc ils vont se sentir trahis par Albert Londres. Mais il avait la vision juste d'une personne extérieure qui voyait l'injustice de ces gens qui soit mourait sur place de maladie, soit en aucun cas s'y rentrait, il devenait des clochards en France. Donc
Et donc en juin 1938, voilà, il y a un décret de loi qui est signé pour l'arrêt des envois de bagnards en Guyane, comme vous le disiez là.
Oui.
Sans pour autant forcément rapatrier les forçats qui sont
en
cours
de peine.
Non,
ça coûte trop cher sur le moment. Ils estiment que ça coûte trop cher.
Et puis donc pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Armée du Salut est suspendue, ne peut plus pour les forçats, c'est une période très difficile
parce que les rations alimentaires baissent.
Ben oui.
Il y a beaucoup de morts d'ailleurs pendant la période de la guerre.
Et après ils reviennent après la guerre.
Voilà.
L'Armée du Salut revient et donc il faudra attendre août 1953 pour que les 132 derniers bagnards touchent le sol français. Mais donc environ 300 condamnés sans famille ou amis en fait ont décidé de choisir de terminer leur jour en Guyane.
Absolument.
Sur leur ancienne terre finalement d'exploitation et d'expiation plus exactement et comme petits commerçants, artisans ou même chercheurs d'or.
Oui, parce qu'il y a pas mal d'or en Guyane.
Voilà, donc il y en a qui choisissent de rester. Mais bon, il faudra attendre août 1953 pour que les derniers, que ça soit plus qu'un, entre guillemets, mauvais souvenir ou alors souvenir de film, on voit certains films avec, comme papillon.
Absolument.
Ce qui ne retranscrit pas forcément la réalité qui s'est passée là-bas. Et le système de doublage des peines aussi, ça, j'ai appris ça aussi, je ne savais pas. Donc, quand quelqu'un était condamné... En fait, on doublait sa peine.
Alors, on partait au bagne à partir de 5 ans. Donc, on partait pas pour 4 ans. C'était le minimum, c'était 5 ans, 5 années. À ces 5 années, jusqu'à 8 ans, 5 années de bagne s'ajoutaient 5 années de doublage. Le doublage, c'était que la personne était libérée, mais elle ne bénéficiait plus de la cantine du bagne, qui était vraiment pas terrible, ni du logement. Donc, le bagnard, qui était très fatigué par le bagne, devait travailler. Et il y avait une phrase qui circulait en Guyane chez les bagnards, c'est maintenant que le vrai bagne commence. Parce qu'il fallait qu'ils proposent leurs services pour les déchargements de bateaux.
Qu'ils se prennent en charge, voilà. Alors que bon, quelque part, au bagne, bon, ben,
ils étaient logés nourris,
la ration n'était pas suffisante parce qu'il y avait des trafics.
Exactement,
hein, aussi,
beaucoup de corruption.
De trafic de médicaments, de trafic de nourriture.
Exactement, ils n'avaient jamais les portions décidées à Paris. Voilà.
Mais c'était quand même plus dur d'être finalement tout seul là sur sur cette île.
Exactement.
Sans pouvoir.
Alors, ils étaient obligés de voler, ils retombaient au bagne souvent.
Ça sort le vicieux infernal quoi. Exactement. Donc ce livre, voilà, j'ai choisi le bagne. Donc ça se termine. Je vais vous lire la dernière phrase donc du roman. C'est un des collègues de Guillaume qui dit, donc de Guillaume le surveillant, hein, donc un de ses collègues qui lui dit: au moins contrairement aux condamnés, le bagne, moi je l'ai choisi. Donc, on revient au titre du livre, J'ai choisi le bagne, parce que bon, bah, ils le choisissent quand même, hein, je veux dire, pour plein de raisons personnelles, chacun choisit.
Certains, on se rend compte, je m'en suis rendu compte lors de mes recherches, c'était quand même parfois une décision qui était un petit peu comme une fugue. L'un, c'était une dispute avec son père. L'autre, c'était une déception sentimentale. C'est le cas de Guillaume Le Guen. Mmh. Et donc, c'est une décision prise un peu sans réfléchir. Je pense que c'était des garçons qui avaient besoin. À l'époque, la Bretagne aussi était plus pauvre. Donc,
C'est un peu une évasion.
C'était une évasion. Fonctionnariat, c'était trois fois plus payé qu'un surveillant de prison de France.
Puis c'était l'inconnu, traverser l'Atlantique
à l'époque.
Donc après, ils savaient pas du tout ce qu'ils allaient trouver de l'autre côté. Et bon, beaucoup étaient forcément surpris. Mais bon, bah, Guillaume, vous le verrez en lisant le roman donc de Béatrice Balti, comment ça se termine, ce qu'il a choisi, comment a évolué sa vie et son travail en Guyane.
Et il est partagé entre fascination et répulsion. Parce que la Guyane, il a du mal,
La végétation.
Exactement. Il se sent plus tout à fait breton, mais quelque part.
Mais il se sent pas non plus vraiment en osmose avec la Guyane.
Parce qu'il est sensible, c'est insensible.
Et puis bon, bah après, il a aussi, toute une histoire privée, on va dire.
Exactement.
Voilà, il faut lire le livre en fait. Hein, en gros, lisez le livre. Il est partout dans les magasins de livres actuellement. C'est J'ai choisi le bagne de Béatrice Balti aux éditions Siloé. Et tout de suite, je commence à lire un petit passage du livre. C'est le départ des bagnards. Le Lamartinière avait enfin levé les ancres. Soudain, la corne de brume, lugubre, déchira l'air glacé à sa manière. Avant de partir, le navire prison saluait les autorités et le continent. Mais ce mugissement angoissant signifiait aussi, pour la masse des bagnards embarqués, l'adieu véritable à la terre de leur pays. Sur le pont du bateau, lessivé par la pluie dense, l'appel avait commencé. Et déjà, les deux petits jeunes inconscients de l'express ne souriaient plus. Guillaume, lui, commençait à penser qu'il avait quitté son travail et sa famille avec trop de hâte. C'était sur un coup de tête qu'il avait abandonné Morlaix, parce qu'il était trop malheureux, parce qu'on lui avait fait comprendre qu'il ne gagnerait jamais assez. Et même si le souvenir encore trop brûlant de la belle Hortense l'obsédait encore, il réalisait soudain que tout comme les 609 prisonniers du bagne, tandis qu'il fixait avec avidité le continent qui n'était maintenant plus qu'une ligne grise, il regardait derrière lui avec regret. Donc déjà, il est déjà pas encore... Il n'a pas encore déjà traversé l'océan, il se demande ce qui va se passer plus loin, quoi, ce qui va se passer après. On peut continuer avec un deuxième passage. On ne continue pas avec un deuxième passage. malheureusement, le temps nous a rattrapés, donc on ne peut pas. Je vous invite à lire le livre, parce que bon, tout du début à la fin, c'est très bien écrit, très intéressant, et puis on referme le livre avec un petit brin de nostalgie, et puis surtout beaucoup ça fait quelque chose, parce qu'on se dit que c'est pas si loin, ça a existé, il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert dans des conditions atroces de détention, et que peut-être, même si on se dit qu'il y en a peut-être qui auraient pu mériter cela, il y en a bien d'autres qui ne méritaient certainement pas cela, et puis c'était quand même assez inhumain comme... oui. comme condition de détention. Donc, merci Béatrice Balti pour
de m'avoir reçue.
Et puis, donc, à dans 3 ans pour un nouveau livre.
J'espère.
Alors, la semaine prochaine, Frédéric Sanjou pour Le Vagabond des Abîmes. Restez fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciat. Boop-boop-be-doop.